أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایک مومن وہ جس کو خدا تعالیٰ کی
Un croyant, celui qui connaît les attributs divins, sait que Dieu possède l'attribut Al-Kafi. Certains qui ne comprennent pas tous les attributs de Dieu sont sous l'influence de la société et entendent des paroles ici et là et disent des choses en référence aux attributs de Dieu. Et le musulman cite aussi l'attribut Al-Kafi dans certaines situations. Dans nombre d'occasions, lorsque le musulman veut exprimer sa gratitude ou lorsqu'il veut exprimer son contentement, il répète que Dieu me suffit ou que Dieu suffit pour nous. Mais quant au vrai croyant qui comprend les attributs divins, lorsqu'il en fait mention, il comprend la portée réelle de ses attributs, il comprend la profondeur des sens de ses attributs. J'évoquais donc l'attribut Al-Kafi de Dieu, un attribut qui a été mentionné dans nombre de versets dans le Saint-Coran, en référence à plusieurs sujets. Ce terme a été mentionné aussi dans les lexiques et selon mon habitude, je vais présenter leur explication afin de faire connaître tous les sens de ce mot Al-Kafi. Kafa signifie le fait que quelque chose suffit, le fait de se contenter de quelque chose. Et si l'on comprend bien, l'on constate qu'il n'y a personne d'autre à part Dieu qui peut suffire à l'homme. Personne d'autre à part Dieu ne peut le consoler. Et c'est uniquement dans les faveurs de Dieu que l'homme peut placer toute sa confiance. Ces sens ont été cités dans le dictionnaire Lane, qui est un dictionnaire arabe et anglais, qui a réuni ces sens qui ont été cités dans d'autres lexiques. Ensuite, il est dit « Kafani fulanun al-amr ». C'est-à-dire, un tel m'a suffi dans une situation particulière. Si c'est quelque chose de positif, je l'ai eu par son entremise. Et si cela concerne quelque chose de mauvais, j'ai pu l'éviter grâce à lui. Cela peut, dans une certaine mesure, s'appliquer aux hommes, mais la personne concernée ici est Dieu. Et c'est en allant vers Dieu que l'on comprend ce qui est réellement bon pour nous et ce qui est mauvais. Et dans le Saint-Coran, Dieu a indiqué les actes de vertu et a aussi évoqué aussi les mots que l'on doit éviter. Ensuite, un autre sens présenté est kafamin, c'est-à-dire éloigner un objet d'une source du mal et l'en protéger. Lorsqu'on dit kafar sharra signifie il l'a protégé du mal, et cela voudrait dire qu'il l'a défendu, qu'il a libéré, et cela s'applique à Dieu et à l'homme, selon ce lexique. Le dictionnaire Lisanul Arab présente un sens à la lumière d'un hadith, un hadith où il est dit c'est-à-dire celui qui a récité les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah, cela lui suffit. C'est-à-dire, ces deux versets le libéreront de la prière surrogatoire au cours de la nuit. Certains disent que cela signifie que ces deux versets font le minimum de ce que l'on peut réciter au cours de la prière nocturne. Et d'autres disent que ces deux versets suffisent pour se protéger du mal et des choses futiles. Si l'on médite sur ces deux versets et si les sens de ces versets sont clairs, l'on y verra nombre de choses. On trouve mention des prières dans ces versets. On arrive à voir comment éviter le mal et comment renforcer sa foi. Ce hadith soulève quelques questions. Car certains peuvent penser qu'il suffit de réciter ces versets. C'est pourquoi je veux donner quelques explications à ce propos. Dans le premier des deux versets de cette sourate, il est dit « Amana Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun » قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Et ensuite, dans le deuxième verset, il est dit لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. La traduction du premier verset est: ce messager croit fermement à tout ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, et il en est de même des croyants. Tous croient en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Ils disent, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Ils disent, nous avons entendu et nous obéissons. Et il prie, ô notre Seigneur, nous implorons ton pardon et c'est vers toi qu'est le retour. La traduction du deuxième verset est: Allah ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. Chaque âme aura la récompense qu'elle aura gagnée et elle recevra le châtiment qu'elle aura mérité. Notre Seigneur ne nous châtie pas si nous oublions ou si nous tombons dans l'erreur. Et notre Seigneur ne nous impose pas un fardeau comme celui que tu as imposé à nos devanciers. Notre Seigneur n'exige pas de nous que nous portions un fardeau qui dépasse nos forces et absous-nous et pardonne-nous et aie pitié de nous. Tu es notre maître, viens-nous donc en aide contre le peuple mécréant. À la lumière de la traduction présentée, l'on comprend pourquoi le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré qu'il suffit de réciter ces versets. Dans le premier verset, on a évoqué le sujet de la purification de l'âme et on a dit aussi que l'on doit croire en Allah, on doit croire en ses anges et on doit croire en ses livres et en ses prophètes. Car voilà le moyen de parfaire sa foi. Et cette foi ne doit point être une foi verbale, mais cette foi est importante par rapport à la doctrine, elle est importante par rapport aux actions. Et l'on doit tout le temps comprendre que la foi sera forte en Dieu lorsqu'on va progresser dans la taqwa. Et la foi en les anges requiert que l'on doit avoir cette certitude que les responsabilités des anges n'ont pas été abrogées, mais que les anges sont en train d'accomplir leurs actions comme de par le passé. Et les livres ont été révélés aux prophètes par Dieu, mais ces écritures anciennes ont été corrompues par le temps, mais en tout cas, c'est Dieu qui a révélé ces écritures à ses prophètes. Et tous les bons enseignements de ces écritures anciennes ont été préservés dans le Saint-Coran, et en ce faisant, Dieu a certifié l'authenticité de ces livres. Et en protégeant le Saint-Coran, Dieu a annoncé que ce livre sera exempt de toute interpolation jusqu'au jour de la résurrection. Et ensuite, il est dit que nous devons croire dans tous les prophètes. Voilà donc la beauté de l'islam, c'est-à-dire l'islam nous demande de croire dans tous les prophètes. Ici, il n'a pas été dit que l'on doit accepter uniquement les prophètes du passé, mais il est dit croire dans les prophètes. Et le Saint-Coran et le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, ont prophétisé à propos de la venue du Messie promis à l'islam. En ouvrant cette voie, Dieu a donné l'ordre de suivre ces prophètes qui vont venir. À leur grand malheur, les soi-disant oulémas ne l'ont pas accepté. Ils ont rejeté la loi par laquelle Dieu envoie des prophètes. Et leur attente de la venue du Messie va à l'encontre des lois de Dieu. En dépit de croire au Saint-Coran, ils rejettent ce que dit le Saint-Coran, notamment le fait que Jésus-Christ est décédé et le fait que personne ne monte au ciel physiquement après avoir vécu sur terre, et que seule l'âme monte au ciel, et que tout ce qui naît ici sur terre a une fin ici sur terre. Et en rejetant le Messie promis, Ces gens rejettent aussi tous les autres prophètes. Car dans ce verset, il est dit que l'on doit croire dans tous les prophètes. Ensuite, ces ulémas sont suivis par les masses musulmanes qui ont une connaissance superficielle et ces ulémas sont en train de porter atteinte à leur foi. Ces gens doivent comprendre cette vérité. Ils lisent les hadiths, ils lisent le Saint-Coran et tout cela a été évoqué clairement, mais ils ne comprennent pas cette vérité. Ils doivent comprendre donc que le Messie premier, l'Islam, va venir de la même façon que sont apparus les autres prophètes. Si le Messie premier, l'Islam, a déclaré être venu de la part de Dieu, il a aussi présenté ses preuves. Et Dieu a témoigné par son soutien qu'il est avec lui. Maintenant, ces gens doivent réfléchir et doivent accepter ce Messie et doivent se joindre aux croyants. Ces croyants qui disent « Samirna wa Atharna ». Et c'est en raison de cette action qu'il prie « Ghufranaka Rabbana ». Ô notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés. C'est là donc qu'ils vont mériter cette prière. Ils vont la mériter en agissant selon les commandements « Samirna wa Atharna ». Et en se tournant vers Dieu, ils vont mériter aussi son paradis. Telle est la promesse de Dieu. Qu'Allah fasse que nos frères musulmans puissent comprendre cette vérité. Au tout début de ce dernier verset de la sourate Al-Baqarah, Allah a déclaré que « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » À savoir que les préceptes de Dieu sont en accord aux aptitudes de l'homme. Allah ne donne pas des commandements qui sont difficiles à mettre en pratique ou qui sont impossibles à mettre en pratique. D'aucuns disent que tel commandement est difficile à mettre en pratique, mais tel n'est pas le cas. Le Messie premier, l'Islam, déclare que il nous est commandé de suivre le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans chaque action, dans tout acte d'adoration et en exprimant toute vertu. Si on ne nous avait pas donné les aptitudes pour émuler le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et toutes ses excellences, nous n'aurions pas eu l'ordre de suivre le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Car Allah n'impose pas des commandements qui dépassent nos capacités. Tout comme il a déclaré, « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Certes, il a été dit que ces deux versets suffisent, mais il ne suffit pas de réciter ces versets. Mais l'on doit comprendre que dans le premier verset, on nous a dit de renforcer notre foi et celui qui a renforcé sa foi ne peut accepter certaines paroles de Dieu et rejeter d'autres. Allah nous explique que notre modèle, c'est le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il est votre modèle afin que vous puissiez atteindre l'apogée de votre foi. Vous devez donc faire des efforts pour suivre cette voie et ne croyez pas que vos aptitudes ne sont pas à la hauteur de certains commandements. Dans certaines situations, Allah a donné des facilités. Dans le domaine de la religion, seul l'islam a donné autant de facilités. On ne peut donc dire que certains commandements sont au-dessus de nos capacités. Si l'homme ne cherche pas tout le temps des facilités et des concessions, il ne va pas considérer ses commandements comme des fardeaux. Si l'homme peut faire des efforts pour des gains matériels, pourquoi ne peut-il pas en faire de même pour la religion? En récitant ces deux versets, l'homme ne se libère pas de tous ses commandements. Cela veut tout simplement dire que celui qui va méditer sur ces versets va agir selon ces versets. Comment l'homme peut-il s'affranchir de la prière de la nuit, de la prière tahajjud, alors que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous est un exemple dans ce domaine? Et le Messie premier des salam a déclaré que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est là pour servir de modèle pour nous et nous devons suivre ce modèle. Si ce hadith a un sens pour nous, cela veut dire qu'en méditant sur ces versets, l'on sera soutenu par Dieu à tel point qu'il ne sera point un fardeau de se réveiller la nuit pour implorer Dieu. Dans le Sahih Bukhari, à propos de ce hadith, il est dit: Man qara bil ayatayni min akhir surat al-Baqarati fi laylatin kafatahu. C'est-à-dire, celui qui a récité ces deux versets de la sourate Al-Baqarah pendant la nuit, cela lui suffit. Le fait de progresser dans la foi, le fait de jouir de la protection de Dieu et le fait d'implorer son pardon attirent davantage de grâce. Et cela nous pousse à accomplir davantage de bonnes œuvres. Mais si l'on pense qu'il suffit de réciter ces deux versets, alors pourquoi, après avoir dit que Allah ne charge aucune âme au-delà de ses capacités, pourquoi a-t-il déclaré que Laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat? C'est-à-dire que si l'homme accomplit une bonne œuvre, il en sera récompensé, et s'il accomplit une mauvaise action, il va en subir les conséquences. On ne va pas atteindre notre objectif en répétant ces versets. Au contraire, on nous a fait comprendre ici qu'il faut à chaque instant analyser ses actes d'adoration et ses bonnes œuvres. Lorsqu'on agira ainsi, l'on profitera de l'amour de Dieu. Et l'on va se rapprocher de Dieu et on va profiter aussi de son pardon. Et on n'aura pas besoin d'aucun type de rédemption, tout comme le disent les chrétiens. En récitant ces versets quotidiennement, l'on sera tout le temps porté à accomplir de bonnes œuvres. La nuit, le croyant va analyser quelles sont les bonnes œuvres qu'il a accomplies au cours de la journée et quels sont les méfaits qu'il a accomplis. Et s'il a eu l'occasion de faire davantage de bonnes œuvres, si la nuit a témoigné qu'il a passé la journée dans la crainte de Dieu, alors le croyant sera poussé à se prosterner davantage devant Dieu en raison de sa reconnaissance envers Dieu. Le croyant sait aussi que son âme peut le leurrer et le tromper. C'est pour cette raison qu'il implore Dieu en disant que si cette analyse que j'ai faite n'est que de la poudre aux yeux, alors pardonne-moi et aie pitié de moi et accorde-moi l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres. Et s'il constate qu'il n'a fait qu'accomplir de mauvaises actions au cours de la journée, le croyant se prosterne devant Dieu pour implorer son pardon. Tout comme il est dit dans ce verset, ces paroles sont importantes pour la purification de l'âme. Car c'est grâce à la purification de l'âme que l'on peut se rapprocher de Dieu. Et c'est grâce à la prière que l'homme se rapproche de Dieu. Et puisque ces prières ont été enseignées par Dieu, si on implore Dieu par ses paroles en toute sincérité, ces prières seront certainement exaucées. Il est dit dans la première prière, « Rabbana la tu'akhidhna innasina aw akhtana » Ô notre Seigneur, ne nous châtie pas si nous oublions ou si nous tombons dans l'erreur. Le croyant déclare que nous sommes en train de faire des efforts pour progresser dans notre foi et que nous essayons de rehausser le niveau de nos actes d'adoration et que nous sommes en train de suivre tous tes commandements et que nous sommes en train d'accomplir nos devoirs envers tes créatures. Mais si, en tant qu'être humain, inconsciemment ou par négligence, nous oublions de mettre en pratique ces commandements, ou si, lorsque nous commettons des erreurs en accomplissant certaines de ces actions, car même en accomplissant des bonnes œuvres, on peut être influencé par Satan, et ces actes de vertu peuvent blesser les sentiments des autres, tout comme Allah l'a déclaré que vous devez faire de l'aumône. Mais Allah n'aime pas l'aumône qui est suivi de reproches ou cette aumône que l'on accomplit afin de se faire valoir. Donc, avec cette prière, on a demandé l'aide de Dieu, à savoir que si nous passons par de telles situations, pardonne-nous, accorde-nous ton pitié et guide-nous sur le droit chemin afin que nous puissions tout le temps avoir ton plaisir. Ensuite, il est dit, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Ô notre Seigneur, ne nous impose pas un fardeau comme celui que tu as imposé à nos devanciers. À savoir, fasse que nous ne soyons pas coupables d'une action qui va attirer ton déplaisir. Fasse que nous suivions tout le temps tes commandements et que nous ne soyons point comme ceux qui nous ont devancés, ces personnes qui ont rejeté tes commandements, ces personnes qui ont attiré ton courroux. Pour chaque tâche, nous avons besoin de ton aide. Ne fasse pas que, en raison des conséquences de nos actions, nous nous éloignions de toi. Fasse que nous ne soyons jamais désobéissants envers toi. Il est évident que Dieu ne place pas des fardeaux sur les épaules de l'homme, des fardeaux qui dépassent ses capacités et ses aptitudes. C'est en raison de ses faiblesses que l'homme s'éloigne de ses actes de vertu qui ont été préconisés par Dieu. Nous devons prier que nous avons pris un engagement avec toi et fasse que nous ne brisions jamais cet engagement. Isra signifie, entre autres, un engagement, un serment. Isra peut signifier aussi une grande responsabilité, un engagement difficile et le fait de mériter le châtiment si on n'assume pas sa responsabilité. Donc, un croyant doit prier en ce sens, à savoir que nos devanciers n'ont pas respecté leur engagement et de ce fait, ils ont attiré ton courroux. Ils ont attiré ton courroux lorsqu'ils n'ont pas suivi tes commandements. Ô Allah, protège-nous de telles actions. Ensuite, il est dit, Rabbana, wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Notre Seigneur n'exige pas de nous que nous portions un fardeau qui dépasse nos forces. Dans certains cas, Allah éprouve ses serviteurs par les choses de ce bas monde. Donc ici, on prie pour qu'Allah ne fasse pas que nous passions par ces épreuves matérielles et qu'Allah nous en protège. Et nous prions aussi pour que ces épreuves ne soient pas au-delà de nos capacités. En fait, tout le temps, le croyant doit prier pour éviter les épreuves spirituelles et les épreuves de ce bas monde. Et lorsqu'il jouit du bonheur, le croyant ne doit pas oublier Dieu. Mais dans certains cas, Allah éprouve les croyants par les choses matérielles, les choses de ce bas monde. On doit donc tout le temps avoir en tête cette prière, à savoir que fasse que ces épreuves ne dépassent point mes aptitudes. Des fois, en raison des épreuves matérielles, le croyant passe aussi par des tourments spirituels. Et si Dieu doit éprouver quelqu'un, qu'Allah lui accorde aussi les moyens pour passer par cette épreuve. Allah éprouve dans différentes façons. Allah éprouve par les enfants, par les biens. Donc, dans chaque situation, l'on doit demander la protection de Dieu. Et on doit prier pour éviter ces deux types d'épreuves, à savoir wa'furna, c'est-à-dire si consciemment ou inconsciemment nous n'avons pas accompli cette œuvre que nous devons accomplir et que nous en subissons des conséquences, nous te demandons de couvrir nos faiblesses et de nous pardonner. Et nous te demandons de nous protéger des conséquences néfastes. Ensuite, il est dit, Waghfir lana, ô notre Seigneur, pardonne-nous. Ghafar signifie couvrir. Cela signifie aussi réformer, rétablir une situation. Cela signifie aussi effacer. Donc, ici, on fait cette prière. Ô notre Seigneur, pardonne-nous ces erreurs. Et pardonne-nous nos manquements et protège-nous de leurs conséquences néfastes. Et à l'avenir, donne-nous l'occasion que nous puissions tout le temps nous réformer, afin que nos erreurs n'attirent point ton courroux. Et ensuite, il est dit, Warhamna, ô Allah, aie pitié de nous. Aie pitié de nous et pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous nos manquements, mais ta grâce requiert que tu nous donnes l'occasion d'éviter ces erreurs dans l'avenir et que nous puissions avoir l'occasion d'accomplir des bonnes œuvres qui vont nous faire profiter de ton plaisir, afin que nous soyons tout le temps parmi ceux qui jouissent de ton amour. Efface que nous ne soyons point ralentis dans nos progrès en raison de ces erreurs, et que n'arrêtions point dans nos progrès en raison de ces erreurs. Anta Maulana, tu es notre maître, et à part toi, il n'y a pas d'autre maître, et personne d'autre ne pourra nous pardonner. C'est Allah qui peut pardonner ses serviteurs. Fasse que nos faiblesses personnelles n'aient point d'effet sur la Jamaat, car dans certains cas, les faiblesses personnelles de certaines personnes poussent les gens à pointer du doigt toute la Jamaat. Et fasse aussi que les gens n'accusent point la Jamaat en raison des erreurs des responsables. Nous clamons que nous sommes une Jamaat de Dieu. Si les gens ont l'occasion de pointer du doigt la communauté en raison de nos faiblesses, les gens vont dire que Dieu les a attrapés en raison de leurs actions et Dieu ne leur a pas accordé son pardon. Et certainement, les gens vont dire qu'ils ont été attrapés en raison de leurs actions. Nous devons donc prier que si nous passons par de telles situations, alors on ne pourra pas transmettre ton message aux autres. La tâche qui a été confiée à la Jamaat du Messie premier salam est de transmettre le message de Dieu aux autres. Si nous passons donc par de telles situations, cela va entraver notre tâche. Nous te demandons pardon et nous disons, ô notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés et pitié de nous et guide-nous sur le droit chemin. Fansurna ala al-qawmil kafirin et aide-nous contre le peuple mécréant et accorde-nous la suprématie sur eux. Nous sommes faibles quant à nous. Cette suprématie va se faire grâce à toi. Donc, individuellement et en tant que Jamaat, fasse que nous soyons parmi ceux qui jouissent de ton amour spécial. De par ta grâce, fais une distinction entre nous et les autres, afin que le cœur soit imbu de ton crainte lorsque nous accomplissons des œuvres qui concernent ce bas monde et les choses spirituelles. Afin que nous puissions atteindre le but pour lequel nous avons accepté le Messie promis, alayhi salam. Lorsqu'on va méditer en ce sens en récitant ces deux versets, nous allons partir dans la bonne direction. Et nous allons profiter des bénédictions de ces versets. Mais il ne suffit pas de réciter ces paroles. Certes, il y a des bénédictions dans les paroles du Saint-Coran, mais ces bénédictions sont accordées à ceux qui possèdent la vertu. Si le cœur est dénué de vertu, alors ses actes de vertu seront rejetés, tout comme les prières d'autres sont rejetées. Donc ces paroles seront rejetées si le cœur de la personne qui les récite est dénué de vertu. Ces versets suffisent car en les récitant, l'homme arrive à faire son analyse complète. Tout comme je l'ai déclaré, on trouve mention de la foi, on trouve mention de bonnes œuvres et de la prière que l'on doit accomplir. Ce hadith veut dire donc que si un croyant passe sa vie ainsi, alors il va prouver que pour moi Dieu suffit. Et pour une telle personne, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a donné la garantie que ces versets vont lui suffire. Car ces versets vont le protéger du mal, ces versets vont lui donner l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres, et ces versets vont lui accorder le contentement, et ces versets vont le protéger de Satan. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre la portée réelle de ces versets et que nous puissions accomplir nos devoirs envers ces versets. Je pensais citer d'autres versets coraniques par rapport à cet attribut, mais ce verset a pris plus de temps. Je vais continuer ce sujet plus tard. Et avant de terminer, encore une fois, je vais vous demander de prier pour les Palestiniens, tout comme je l'ai fait au cours de mes deux précédents sermons. Vous devez prier pour eux car leur situation est en train de s'empirer. Et maintenant, ils sont écrasés par l'oppression. Et l'oppression des Israéliens est en train d'augmenter. Même ceux qui étaient en faveur d'Israël sont en train de protester ouvertement maintenant. On ne sait pas si ces protestations sont une feinte ou s'ils sont en train de ressentir une réelle douleur, mais en tout cas, il y a des protestations. Au début, ces mêmes personnes étaient silencieuses, mais si dès le début, on pouvait arriver à une décision juste, les gens ne seraient pas passés par de telles situations. Leur silence, le silence de ces pays, est en fait une preuve de leur soutien à l'oppression. En tout cas, des enfants innocents, des femmes innocentes et des vieux sont tués sans aucune pitié. Qu'Allah ait pitié d'eux. Voilà toute l'aide que nous pouvons apporter à ces opprimés. Ensuite, il y a plusieurs organisations des Nations Unies qui travaillent dans ces régions et ils ont envoyé des médicaments et des nourritures pour ces personnes. C'est vrai que tout ne va pas pour le mieux du monde et que l'aide n'arrive pas à toutes ces personnes, mais voilà comment les aider. Il y a aussi Save the Children qui est en train de travailler là-bas. Il y a aussi d'autres organisations. Ces organisations demandent des donations. Nous devons les aider. Humanity First est en train de leur envoyer de l'aide. Et Inch'Allah, il y aura de l'aide de la part de la Jamaat. Et les Ahmadis qui ont la possibilité doivent donc aider. Et on doit aussi prier pour qu'Allah aide ces opprimés et qu'Allah attrape les coupables.